Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes bien dans Fréquence Locale, votre magazine d'information locale sur les ondes de Radio Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vous emmène au lycée Joseph Saverne pour le troisième épisode de La Voix et la Plume. La Voix et la Plume, c'est anciennement le prix du livre SES-SVT, où c'est la dixième année de partenariat entre Radio Fil de l'Eau et le lycée Joseph Saverne pour ce projet, je tenais à le rappeler. La Voix et la Plume, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des élèves et des professeurs du lycée Joseph Saverne qui se retrouvent une fois tous les 15 jours pour discuter de livres qu'ils ont lus, chacun les mêmes bien sûr, pour pouvoir en parler. Je vous emmène aujourd'hui dans ce troisième épisode.
On se retrouve pour discuter un petit peu de vos lectures respectives. J'espère que vous avez avancé un petit peu, j'en doute pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vu sans la radio, on avait un peu parlé de la fabrique du muscle, des enfants endormis, voilà. Peut-être que là, on peut aborder de nouveaux livres. Peut-être que... Vallée du Silicium. Vallée du Silicium, on est 1, 2, 3, 4, 5 à l'avoir lu autour de la table. Bon, les autres, désolé, mais enfin, vous pourrez participer quand même. Est-ce que peut-être que l'un de vous veut déjà rappeler de quoi il s'agit et rappeler le thème pour que tout le monde l'ait en tête? Non? Je ne sais pas.
C'est un livre composé de 7 chroniques et une nouvelle autour de la technologie, surtout IA et tout ce qui s'en suit.
Voilà. Ouais. Est-ce que tu sais qui c'est Alain Damasio, l'auteur?
Je ne sais plus ce qu'on avait dit, c'était... Je sais pas, on l'avait dit, mais je ne sais plus.
C'est un auteur de science-fiction, qui écrit des romans la plupart du temps.
Ouais.
Et je crois que là, c'est, c'est une nouvelle forme de livre qu'il a écrit. C'est effectivement des chroniques... Donc oui, les 6 premières chroniques, c'est de la fiction. Ça dure à peu près quoi, entre 40 et 50 pages. Et la dernière, c'est une nouvelle. Voilà. Donc autour de la vallée du silicium aux États-Unis, donc de la Silicon Valley.
Il a francisé le titre. Quoi, ouais.
J'ai mis 6 mois du coup. La version française de la Silicon Valley. Mais bon, voilà. Et peut-être que tu peux nous dire, je ne sais pas si c'est chapitré, je ne m'en rappelle plus, les différents thèmes qui sont abordés.
Ouais. Je ne sais pas si c'est très explicite au niveau des titres, mais on va peut-être s'y retrouver.
Alors, première chronique, c'est un seul anneau pour les gouverner tous. C'était sur le ring d'Apple, enfin
le bâtiment. Voilà.
Ensuite, on avait la ville aux voitures vides, sur les voitures autonomes et l'IA. La ligne de coupe,
je ne me rappelle plus. Je ne sais plus ce que c'était.
Sur les frontières, le métavers, le mouvement fixé des corps et les mots de passe.
Sur le métavers.
Ouais, c'est quoi le métavers? Tu sais ce que c'est le métavers? Je ne sais pas.
C'est un espace artificiel de connexion entre des avatars.
Ouais, c'est ça.
Concret qui nous remplace. Donc, c'est un univers artificiel dans lequel on évolue à travers un avatar.
Mais c'est un truc qui existait il y a 15 ans déjà, j'ai l'impression, non? Il y avait tout un univers qui avait été créé un peu, où, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vieux. Là, ouais, non, il n'y avait pas.
Après, je pense que là, les nouvelles technologies font autre chose.
Beaucoup plus... Mais c'est sûr.
Et après, peut-être, tu peux...
Il y avait Love Me Tenderloin. C'est sur un quartier défavorisé de San Francisco. Le problème à 4 corps, c'était une discussion avec quelqu'un de la Silicon Valley.
Je crois que c'était sur toutes les applications de technologie, sur le suivi de notre corps, de notre santé. Il y avait tout un chapitre là-dessus. Sur comment on évalue la performance de notre corps, enfin, les applis de suivi de sommeil, de 36 000 trucs. Ouais.
Et l'impact des données aussi, non, pas ça. Sur à qui sont fournies les données de ces applis.
qu'on avait trouvert, un portrait du programmeur en artiste. Du coup, pareil, c'était c'est une interview avec un programmeur, je crois. Et Pouvoir aux puissances qui terminait les chroniques.
Bon, et qu'est-ce que t'en as pensé? Sinon, est-ce qu'il t'avait plu
Oui, moi ça m'a plu parce que je trouvais que c'était vraiment poussé et tout, mais je trouvais que ça restait quand même accessible. On arrivait quand même à comprendre, même si on n'était pas trop informé sur le sujet.
Ouais. C'est vrai qu'on dirait que. Enfin, on pourrait penser que c'est un livre pour les gens qui s'intéressent déjà à la technologie et qui connaissent tous ces trucs-là. Et c'est vrai que même si on ne s'y connaît pas trop, on comprend, ouais.
Oui, c'est pas sur la technologie, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est plus sur notre usage, oui. Notre rapport à la technologie, oui. Ce que ça veut dire de nous.
Ouais.
Et la place qu'elle prend aussi.
De la place qu'elle prend, ouais. Et de ce que ça impacte sur nos relations aux autres aussi, à l'autre.
Et puis, surtout, il a quand même une vision très critique. Enfin, non ? Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Très critique, mais en même temps, il le dit lui-même, je m'en rappelle des premiers sur Apple ou quoi que ce soit, il s'y inclut, quoi. Il n'est pas... Le reste du monde fonctionne comme ça et c'est nul. Enfin, je veux dire, il est très conscient qu'il est lui-même dans ce monde-là. Je ne l'ai pas vu... Enfin, si, c'est une critique des dérives de ce que ça pourrait apporter. Ouais. Mais en même temps, je ne sais pas. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas senti comme un livre sur la critique de la technologie.
Moi,
je ne l'ai pas senti comme ça, même si c'est un peu ça, quand même. Mais le ton n'était pas...
Moi, je trouve que le ton est très critique.
Il me semble qu'il est à la fois fasciné par... ça le passionne. À propos de... Alors moi, je n'ai pas tout lu, mais sur j'ai lu les deux premiers textes, on va dire. Et par exemple, donc effectivement, je me souviens aussi que quand il décrit, alors pas vraiment le siège social d'Apple puisqu'il est inaccessible, mais l'Apple Store qui est juste à côté, et donc il explique bien que voilà, il est fasciné par les produits Apple depuis toujours, et en même temps, il en est vraiment très très critique. Et dans le, c'est assez efficace la description de l'Apple Store où, enfin, j'en ai le souvenir qu'il en fait la description d'un espace où le design est extrêmement. J'ai jamais mis les pieds dans un Apple Store, hein, ça m'intéresse pas du tout pour ma part, mais il en fait la description d'un endroit qui est dont le design est extrêmement soigné et un endroit transparent, enfin, avec beaucoup de parois en verre, il me semble, et donc un endroit qui se veut tout à fait ouvert. Et juste à côté de cet Apple Store, il y a l'anneau, le siège social d'Apple, qui lui est totalement fermé, totalement inaccessible. Et il est très efficace dans sa description de la contradiction qu'il y a entre l'image que veut se donner la marque et ce qu'elle est, c'est-à-dire fondamentalement un pouvoir, quoi. Et dans le texte suivant, où il est question des voitures autonomes, effectivement. Il présente la voiture autonome comme une dépossession en fait de soi, de la liberté de se déplacer, et donc très largement quand même, il me semble, il présente souvent ce que la technologie nous propose ou ce que les grandes entreprises qui contrôlent cette technologie nous proposent comme une dépossession, quelque chose qui nous prive d'un certain nombre de pouvoirs, de libertés. Moi, je l'ai vu aussi comme quelqu'un qui était très, très critique. Par moi-même, ça me semblait tellement systématique. Globalement, j'ai trouvé que c'était, pour ce que j'ai lu, assez convaincant et efficace dans sa critique, mais par moments tellement systématique que ça perdait un peu aussi quand même de sa force. Tu fais parfois référence à des auteurs là où... Enfin, je sais pas, on a l'impression par moments que pour lui, le pouvoir et l'aliénation et certaines formes de manipulation se cachent tellement partout que voilà, ça devient, j'ai trouvé, un peu trop systématique et un peu moins convaincant. Mais après, très souvent, ça se lit bien et c'est assez convaincant, il m'a semblé.
Moi aussi, en lisant, je me suis sentie rebelle, tu vois, d'être une ado de 15 ans, rebelle, c'est vrai, c'est pas bien, enfin, j'ai eu ce sentiment-là.
Mais alors, c'est peut-être dans la façon d'écrire, où je l'ai pas senti comme un truc, c'est plus fin dans sa manière dont il amène les choses, où il nous amène à comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils attendent de nous.
Je sais pas très clair ce que
À un moment, il a, dans le deuxième texte là, sur les voitures autonomes, il y a une part de fiction. Voilà, c'est Glolan, c'est plutôt un essai, on va dire, mais il y a quand même un moment de fiction où il imagine je sais pas, quelqu'un qui travaille dans la Silicon Valley, je sais plus ce qu'il fabrique, qui sort d'un bar où il a rencontré des gens réels, et donc tout de suite il est sur son téléphone, il entre en contact avec d'autres personnes, mais voilà, sur les réseaux, etc. Il a sa voiture autonome qui arrive, et puis il y a un problème avec la voiture. Voilà, et il se retrouve coincé dans l'espace public. Voilà, et là en fait, l'espace public s'est présenté comme l'espace pour les gens qui sont les marginaux en fait, les gens qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. L'espace public, la Silicon Valley a fait de l'espace public un endroit de relégation en fait. Voilà, et le lieu où on doit être quand on est inséré socialement, c'est soit chez soi, soit dans l'espace virtuel. Voilà, et donc les voitures autonomes, elles sont celles qui nous permettent de nous déplacer dans cet espace très particulier. Qui a été créé voilà, sur ce territoire où, qui est très largement façonné par les entreprises du numérique. Et à un moment, il imagine donc que la voiture ne fonctionne plus. Voilà. Et du coup, il est obligé d'en sortir. Et alors là, il est effrayé d'être à la merci de se retrouver physiquement en présence de, voilà, des personnes marginalisées qui sont sous je sais plus quelle substance est très fortement consommée, mais ouais. Bon, c'est les gens, ça va pas bien,
c'est du tout, ouais.
Ouais, c'est les zombies, et les voitures autonomes deviennent tout incontrôlables parce que j'en sais rien, on imagine, je me souviens plus, un pirate
intentant,
ouais. Ouais, voilà, elles ont été piratées, et il est écrasé. Et le retour au réel et à la dimension physique, disons, de notre existence et la sortie de ce monde virtuel dans lequel cet individu est très largement, de par son travail et son mode de vie, ce dans quoi il vit largement dans ce monde virtuel, ben, voilà, pour lui, le retour au réel, ça se fait par une voiture autonome qui l'écrase et qui traîne son corps sur la route et qui en fait de la bouillie. On voit bien qu'il y a une volonté quand même chez lui de...
Critique,
de tu vois, voilà, c'est, oui, ça l'énerve. Ça l'énerve quand même.
C'est peut-être dans le ton qui était plus... dans sa manière d'écrire.
Ouais, sa manière d'écrire est particulière.
Donc...
Vous avez pensé quoi de sa manière d'écrire, son style?
Moi, il faut que je sois reposée pour le lire. Oui. C'est dense.
C'est particulier.
C'est dense, mais c'est très, très bien écrit.
C'est joli, ouais.
Ouais, oui, c'est très, très bien écrit.
Ouais.
Apparemment, il y a plein de références, on en avait discuté tous les deux, que j'ai pas captées. C'est pareil, j'ai tendance à lire un peu trop vite, alors plein de trucs que j'ai pas zappés sur des...
Oui, il y a des références à des films, à des jeux, dans le premier... ouais. Dans le premier chapitre, je crois. Dans le premier essai.
Ouais. Moi, je m'étais noté des petites des pages où le style m'avait marqué, ou puisque le style, c'était peut-être le contenu, le côté je. Enfin, c'était divertissant à lire. Il y avait, je sais pas si je vous lis un extrait ou je sais pas lequel, mais bon, j'ai un petit extrait sur le fait que, comme tu disais, il fait partie du système et il l'admet, quoi. Donc là, c'est quand il rentre dans l'Apple Store, je crois. Il faut arrêter de se mentir, Alain, de jouer à l'analyste objectif, arrêter de se faire croire qu'on se tient en dehors de tout ça, en marge des rectangles. J'en suis, I'm in, comme disent les joueurs de poker qui acceptent une partie. Un fidèle comme un autre, en vérité, voilà ce que je suis. Car je fais partie des 1,8 milliard de pratiquantes... Ah oui, il y avait autre chose aussi. Ouais. 1,8 milliard de pratiquantes à travers le monde qui ont épousé le catéchisme de la pomme. J'ai été évangélisée à 21 ans lorsque j'étais en école de commerce avec un Mac SE à double lecteur de disquette qui savait déjà mettre en gras sur l'écran ce que le logiciel mettait en gras. Et je n'ai jamais osé abjurer depuis. Aujourd'hui comme hier et comme demain, je ferai mes ablutions au-dessus du clavier et mes signes de croix au milieu du trackpad. Amen. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais, peut-être qu'on peut expliquer le style d'écriture, là, le pratiquante.
Tu veux expliquer, Alicia? La féminisation,
ouais. Un chapitre sur deux, ce qu'il a décidé de faire dans la façon d'écrire.
Je me rappelle de ça, mais je m'en peux plus de la note à la fin.
Ouais.
Je me rappelle plus du contenu de la note.
Ouais, en fait, il a décidé, alors en dehors de sa... Enfin, c'est en dehors de son récit et de ses chroniques.
Ouais.
Oui. Ça paraît... bon, c'est deux choses différentes.
C'est anecdotique, oui. Voilà. Mais c'est sur l'écriture, quoi.
C'est sur l'écriture. Donc, il a décidé de, une chronique sur les deux, de féminiser les pluriels. C'est-à-dire qu'au lieu que le masculin ne l'emporte dans la grammaire pour les pluriels, eh bien, il a décidé que le féminin l'emporterait sur le masculin, pour toutes les choses au pluriel. Et donc, c'est ça, il fait une chronique sur deux. Et c'est perturbant, quand même.
Oui.
Enfin, on le repère. On le repère, et ça, à chaque fois que ça intervient dans une phrase, on se dit... Ah oui. Enfin, moi, ça m'a demandé un petit arrêt de me dire... Ah oui, c'est vrai, non, là, il parle pas des femmes, il parle de tout le monde. Et,
Ouais. Mais là, j'ai un petit extrait de l'explication qui donne à ça. Mon espoir est que la gymnastique mentale consistant à se souvenir que derrière les Européennes, il existe bien entendu aussi des Européens hommes, fasse pendant aux quatre siècles où c'est le masculin pluriel qui valait aussi pour un féminin enfoui ou caché derrière. En tout cas, subsumé, bon. Il me semble que ce que ça fait d'être implicite et non exprimé dans le texte, voilà. En gros, il veut voir... comment ça nous fait bizarre et qu'on expérimente un peu
Le fait d'être implicite.
Ouais, voilà.
Que le masculin soit... Ouais. Oui, implicite, c'est ça.
Ah, derrière le... C'est le féminin qui est implicite et ça nous heurte pas d'habitude. Enfin, ça nous fait pas bizarre. Mm-hmm. On s'est habitué à ça. Et voilà, montrer qu'en fait, c'est un truc qui a été... Ouais, c'est une convention. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Ouais. Et la nouvelle de la fin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que là, pour le coup, c'est un récit, en fait, qui est... Voilà, c'est conforme à ces récits de science-fiction. J'ai jamais lu du Damasio, hein, mais j'imagine que c'est ce qu'il fait habituellement. Là, c'est peut-être une 80 pages ou 60 pages, je sais pas trop combien. Tu l'as pas lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont lu?
Assez effrayant, je trouve.
Ouais, ouais.
Vraiment... C'est pareil. Est-ce qu'il
c'est marquant, je trouve, quand même.
Que... Et c'est de pire en pire, quoi. Enfin, je trouve qu'au fur et à mesure du récit...
Oui, en fait, je ne vois pas trop... pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais... Oui, c'est de pire en pire, ouais. Effectivement.
Et t'en as pensé quoi?
Bah, un peu la même chose. Après, ça faisait aussi des petits échos à ce qu'il avait dit parfois dans les chroniques, donc...
Oui, ça répond bien au reste de l'ouvrage.
Ouais. Est-ce qu'il fait appel, oui, au reste de l'ouvrage?
Pas énormément, mais il y a des petits trucs.
Ou là, ça aborde un autre sujet, mais de manière fictionnelle. Toujours dans le même ordre d'idées, mais...
Oui, c'est toujours dans le même ordre d'idées, oui.
Oui, mais c'est une autre thématique, quand même. Je trouve. Je sais pas s'il faut aborder la thématique ou si on spoil autre chose.
Oui,
Non, bah c'est... ne dites pas. Est-ce qu'il voilà, y a c'est... qui ça donne envie de lire?
Pas trop. Là, il y a une grimace.
Oui, ça donne envie de lire.
Moi, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je pensais que ça n'allait pas du tout me plaire. Je l'ai pris parce qu'il n'y avait que celui-là qui était dispo. Alors, ça, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout parce que j'ai été pris par l'autre chose, mais ça se lit vraiment très bien. Et j'ai trouvé ça bien mieux que ce que j'avais imaginé. Ça m'a plus intéressé. Voilà. Ce dont il parlait est intéressant et ça se lit très bien. Et voilà. Du coup, c'est bien mieux que ce qu'on pourrait croire en lisant la. Enfin, moi, je trouve que la quatrième de couverture fait un peu fuir, mais en fait, c'est bien.
Je sais pas pourquoi il a mis SF d'ailleurs sur la.
On
n'avait
pas dit
San Francisco. Ou
science-fiction.
On avait les deux pistes.
Science-fiction. Je sais pas. C'est sur la couverture, c'est pas sur l'éditeur.
Non.
Parce que les éditeurs, quand c'est de la science-fiction, oui, ils mettent SF une catégorie.
Ouais. Mais non, là,
c'est vraiment.
C'est pas le cas de cet éditeur, je pense. Valentine,
il y a la limite entre la science-fiction et la réalité, peut-être c'est ça aussi. Non, mais c'est.
C'est pas des thèmes qui, de base, t'intéressent.
Non. Et puis je pense que du fait de son épaisseur, ça nous. On est un petit peu réticents à le lire, mais je pense que si on est dedans, il peut bien se lire. Mais j'ai plus resté sur le format BD, je pense.
Les textes peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Donc on peut piocher dedans, prendre. C'est pas très long, je sais pas, il faut.
Ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le style.
Oui, c'est vrai,
en fait.
Ouais.
Même si le sujet est pas forcément.
Peut-être que l'Apple, c'est le plus... Si vous deviez en lire un, c'est peut-être celui qui est le plus...
Moi, c'est... Ouais, non les deux, trois premiers chapitres que j'ai beaucoup aimés. C'est vrai qu'après, je me suis un peu lassée.
Oui.
Les deux, trois premiers, ouais.
Mais la nouvelle de la ferme était quand même très bien.
Oui, ça vaut le coup de la lire, oui.
Ouais. Voilà. Si certains veulent juste le côté roman, allez chercher juste la nouvelle.
Ouais. Non, à tenter, je pense. Même si... Essayez.
Bon. D'autres avis les autres.
Non, ils n'ont pas envie.
Non, ils n'ont pas envie. Non, mais on avait voulu intégrer un petit peu des thématiques
Sur les technologies.
Ouais, ouais. Je pense que
c'était notre objectif, attirer des garçons. Je crois que c'était ça aussi. des trucs sur... je crois que c'était ça aussi.
Oui, oui, je crois que oui. Oui. Les garçons, technologie, les garçons.
C'était un des objectifs de l'année, de mixer un peu.
Bon, bien.
Et c'est le moment de faire la pause musicale dans ce troisième épisode de La Voix et la Plume dans votre fréquence locale. Pour cette pause musicale, j'ai demandé bien au groupe de choisir un morceau. Il est sorti à l'unanimité, le morceau de Philippe Catherine, La Banane. C'est parti.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
C'était La Banane de Philippe Catherine. Vous êtes toujours dans votre fréquence locale, le magazine d'information locale sur les ondes de Radio Fidelo. Nous retournons au lycée Joseph Saverne pour la deuxième partie de ce troisième épisode de La Voix et la Plume.
On voulait parler d'autre chose.
De quoi?
Ça peut être la différence invisible, ça peut...
Manger les riches, il y en a plusieurs qui l'ont...
Eh bien, il y en a qu'un qui tourne. J'ai essayé de l'emprunter à la médiathèque, t'es pas dispo. Il y a Valentin, Zoé, Léon, Emma. On peut en parler, hein?
Non, je sais pas.
Ouais,
Zoé.
Allez, go, manger les riches. Est-ce que l'un de vous peut nous faire un petit résumé, quelle est la thématique, qu'on sache de quoi on parle?
C'est le livre de
Antoine. Non, ouais. C'est pas fini, donc...
Et c'est quoi comme un type d'ouvrage, déjà? Est-ce que c'est un roman? C'est un essai?
Oui, c'est plus un roman. En tout cas, à mon avis, c'est plus un roman. Quoi.
C'est une fiction?
Ça, j'ai pas... Ben, je pense que c'est pas une fiction, mais... Ben, je sais pas. Je sais pas comment... Quoi en penser.
Nora Boisouni, c'est une journaliste, non? Je sais pas.
Il me semble que oui.
D'accord.
Mais après, sur quoi
Et c'est organisé en chapitre ou comment?
Alors, normalement, c'est organisé en chapitre, mais... Voilà.
Qu'est-ce que ça te dit dans le sommaire? Tu peux regarder.
Alors. Oui, sur quelques chapitres, en trois chapitres.
Vas-y, c'est quoi, lis-nous les grands thèmes.
Alors, c'est la fin du monde.
Ouais.
Manger moins et manger moins.
Uh-huh.
Et après, il y a capital culinaire.
Ok, de beaux jeux de mots, donc. Ouais. Parce que j'imagine, la fin du monde, c'était F-A-I-M.
Oui.
Ah ouais. Donc, on est sur l'alimentation. L'alimentation, peut-être les inégalités face à l'alimentation,
enfin, oui, et ben, plus largement les inégalités en général, je pense. Enfin, ça représente plus ça. Mais, comment dire, ben, je sais pas comment dire ça.
Les autres, si vous voulez compléter, Valentin,
vous montrer autres. L'impact de l'alimentation, mais pas que dans le domaine du fait de se nourrir, etc., mais la place que ça avait aussi dans une société. Enfin, comment le fait qu'on se nourrisse montrait des choses sur notre identité, notre classe sociale, oui. Etc.
Ok. En quoi l'alimentation est un marqueur de ce que nous sommes, de nos
oui.
identités.
Et finalement, est-ce qu'on est vraiment libre de se nourrir comme on veut et à qui appartient en fait ce marché-là? Enfin, il y a aussi tout un aspect avec les différents lobbies. Des aspects économiques, etc., avec différents partis qui sont pris entre certains qui disent qu'il faut mieux consommer, d'autres qui sont sur un autre aspect, etc.
Okay.
C'est facile à lire
en vrai, c'est assez dense, je trouve. Mais après, il a une écriture qui est assez humoristique, comme
c'est
le montre...
Une femme.
Elle a. Elle a une écriture qui est assez humoristique, du coup ça allège un peu le sujet et les contenus qu'il y a écrit dedans. Mais en soi, enfin, je pense qu'on comprend pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte, etc. Mais on arrive à se faire un avis global et une compréhension globale de ce qu'elle essaie de dire.
Tu l'as lu en entier ?
Oui.
Et toi, Emma, tu l'avais lu en entier ?
Non, moi j'ai pas encore fini. Mais après, là, ce que je retiens, j'ai l'impression que, par rapport à comment il écrit ou formule les choses, j'ai l'impression que... Enfin, elle formule les choses. j'ai l'impression que... Ben, je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre là où elle veut nous mener.
Ouais, donc elle vise à informer, quoi. Et
simplifier quand même un peu okay. les choses. Et... Donc ça, c'est bien quand même pour tout public, c'est cool.
Donc t'as envie de le continuer ?
Oui.
Et Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Moi, j'ai trouvé le livre assez intéressant. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'elle est très critique, notamment à l'égard des lobbies et des gouvernements. Elle fait un lien assez important entre le fait que les gouvernements choisissent certaines politiques alimentaires et le fait que les grandes entreprises en fait, tentent d'influencer notamment... je pense au Mercosur avec l'État français qui veut commercer avec l'Argentine, il me semble. Et son style, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'ironie, ça me fait penser un petit peu au Lème de Gouges qu'on a lu l'année dernière pour le bac de français. Elle met beaucoup de références, notamment au Lème de Gouges, mais aussi à d'autres auteurs. Il y a des références à Bourdieu et après d'autres auteurs que j'ai pas retenus.
Et du coup, tu parlais de qu'il y a aussi pas mal de choses sur l'État et ce que les politiques publiques il met en place pour influencer l'alimentation. Tu aurais des exemples de politiques publiques à part là sur le Mercosur, par exemple?
Il me semble qu'à un moment, elle parle aussi sur l'agriculture de l'Union européenne qui favorise les grosses entreprises productivistes. Au détriment des petites, et donc ça fait baisser la qualité globale de l'alimentation.
Et est-ce qu'elle parle par exemple de tout ce qui est Nutri-Score ou taxes sur les sodas, ce genre de choses? C'est pas
évoqué. Non. Mais elle cite des marques qui sont connues et qu'on connaît nous-mêmes pour. Les critiquer de manière constructive et apporter des arguments sur, notamment par exemple, des fois leur argument marketing et comment ils arrivent à vendre leurs produits finalement et en déconstruisant ces arguments-là pour montrer leurs limites, etc.
Oui. Fait un peu une critique de la publicité
oui.
de ces marques.
Dans la quatrième de couverture, elle parle du Nutri-Score. Peut-être qu'elle l'évoque à un moment donné, c'est peut-être pas le cas. Mais... Et vous, mangez les riches, du coup, vous le... Vous comprenez... Je sais pas, ça m'interpelle. Le titre.
Elle parle beaucoup aussi, donc... Les différences entre les classes sociales qui se font par l'alimentation. Et il y a un exemple qui m'avait assez intéressé. Elle dit que les plus défavorisés mangent de la nourriture de moins bonne qualité, mais elle explique qu'il y a une sorte de mépris derrière, en gros, où on sous-entend qu'ils ne savent pas s'alimenter. Et elle développe dessus en expliquant que c'est plutôt... En fait, il faut un calcul au vu de l'apport calorique de certains aliments et de leur budget. Et ils essayent en fait, de faire au mieux, mais forcément, ils sont vachement réduits au niveau des choix possibles.
Ouais. Et puis même, on a tendance à dénigrer ces choix alimentaires en disant « bah oui, mais ça coûte pas forcément plus cher de bien manger, etc. » Et en réalité, c'est aussi des fois le choix de se faire plaisir sur l'alimentation, parce qu'on ne peut pas se faire plaisir en faisant des sorties, etc. Donc on fait plaisir aux enfants en mangeant des pizzas, quoi. Voilà. Je résume un peu, mais en gros, c'est facile de dénigrer les pauvres sur leur alimentation en disant bah, « ils ne savent pas gérer un budget » ou « ils ne savent pas bien se nourrir ». Oui, mais on fait aussi avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Et...
Oui, ils font d'autres choix. Ouais, et voilà. Comme ils ne peuvent pas faire forcément des choix sur et l'alimentation et des sorties ou je ne sais pas quoi.
Parce que je me souviens qu'il y avait eu une année où on avait un livre sur... je ne sais plus le titre exact, c'était sur la pauvreté. Et c'était un petit peu une discussion sur tous ces discours qui ont tendance à culpabiliser les pauvres comme étant responsables de leur situation... en gros, il y a moyen de faire d'autres choix, il pourrait être moins bête. Et, voilà. On a des fois ce genre de discours sur avec la prime de rentrée scolaire, ils vont acheter leur télé, ce genre de choses. C'était un peu le point de départ du livre. Et en fait, dans le livre, il disait mais il y a d'autres calculs qui sont faits parce qu'il y a d'autres priorités et parce qu'on veut se faire plaisir aussi. Et si au quotidien, on ne peut pas se faire plaisir. Ouais. Bon, je digresse. Voilà. Et cette couverture là, parce que moi, tu revenais sur le riche, sur le titre, pardon.
Le
manger
titre
les riches.
Parce que du coup,
moi, ça me fait penser.
Je sais pas ce qu'elle veut dire par manger les riches, mais.
Pour moi, c'est un peu comme si la lutte des classes. Mais c'est un peu le titre, tu vois. La lutte des classes. On va renverser. Renverser les riches en les mangeant, quoi. Non, ça m'évoque ça.
On peut peut-être décrire la quatrième de couverture.
Ouais. C'est bizarre.
Après, juste pour expliquer manger les riches, elle l'aborde un moment. Ah. Elle explique que pour régler les problèmes d'alimentation dans le monde, il faudrait... en fait, elle sous-entend au début du paragraphe que c'est les élites qui font... En fait, qui contrôlent les marchés... de l'alimentation, et que pour régler ces problèmes, eh bien, il faudrait manger les riches. Et elle fait un parallèle avec une phrase célèbre d'un philosophe, il me semble que c'est Danton, mais je ne suis pas sûr.
Qui dit quoi ?
Qui dit qu'il faudrait manger les riches pour nourrir les pauvres à la Révolution française.
Ah ouais.
C'est ce que j'allais dire, il me semble que c'est une phrase relativement, assez souvent employée, en fait, qui est devenue un peu une phrase... typique de ça, en fait, de la lutte des classes, justement, le fait de manger les riches et qui date qui a été employé pour la première fois, il y a déjà bien longtemps.
Ouais.
Révolution française, mon d'entre eux.
Oui.
Ouais. Et du coup, quelqu'un peut décrire cette couverture ? Allez-y, quelqu'un. Vas-y.
Et moi, j'ai pas lu. Moi, j'ai
non,
pas
mais
lu,
tu nous dis, dis-nous ce que tu vois.
Ah, mais alors, du coup, on voit une femme. Dans une assiette, une femme de la Révolution française, la perruque, enfin, je sais pas si c'est une perruque, mais voilà. Et donc, dans le prolongement de ses cheveux, c'est une choucroute, je dirais, mais je sais pas si c'est ça. Enfin, c'est une choucroute. Et voilà, donc après, on voit aussi une bouteille de champagne avec une allumette au-dessus, enfin, comme une détonateur, quoi. Et voilà. Et une fourchette pour manger les riches, du coup.
Ouais. Effectivement, cette femme, je pense que
aristocrate ou je sais pas quoi, c'est, elle a eu la tête coupée, ouais. On a mis la tête dans l'assiette.
Et c'est bien vu, la choucroute, les cheveux et la choucroute, la choucroute à qu'on mange, quoi.
Ouais. Et on voit une fourchette arriver par le dessus pour, qui va s'attaquer, qui va aller manger.
Ouais. Et la avec la petite étincelle là, dans la bouteille de champagne, ça fait attention, ça va, la révolution arrive. Ouais. C'est ça, non?
Ça va, elle n'avait jamais péter. Analysé, elle ne tirait pas du tout la couverture.
Non, c'est vrai.
Mais effectivement.
C'est même pas la choucroute, c'est sûr.
Ah oui, voilà, c'est ça, peut-être ça. Et derrière, il y a autre chose aussi que je n'avais pas vu, tiens. Vous voulez décrire ce qu'il y a derrière?
Derrière, il y a des plats qui sont plutôt associés aux pauvres avec des frites, hamburgers. Et c'est mélangé avec du homard et du caviar aussi. Et avec de l'argent dans un mixeur aussi.
Ouais, et il y a une balance surtout. Et il y a dans la balance, il y a le hamburger. Ah oui, alors c'est mélangé, oui. D'un côté, il y a un hamburger, et dans le hamburger, il y a du caviar, je pense. Mmh. Et qui est beaucoup plus lourd. À droite, il y a des frites avec un homard. Et ça, c'est beaucoup plus léger, donc je sais pas trop pourquoi. Mmh. Mais voilà. Mais à côté, il y a effectivement des billets.
Et c'est amusé, quoi.
Voilà.
Non, mais ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que l'alimentation est un marqueur social et que ça dit qui nous sommes. Ça dit beaucoup de choses de nous.
Et des rapports de...
De domination.
De domination.
Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant, le travail sur les couvertures aussi, des fois. Parce que ça, par exemple, dans Vallée du Silicium, je ne sais pas si c'est des taches ou si ça représente vraiment quelque chose.
Et ben on n'a pas creusé, mais peut-être qu'il faut qu'on cherche. C'est peut-être une carte.
C'est pas un archipel.
Ça me fait penser à ça aussi, mais je ne suis pas sûre.
Et San Francisco. Parce que tout se passe à San Francisco. La Silicon Valley, c'est pas... C'est où, la Silicon Valley?
C'est au sud-est de San Francisco.
Cupertino. La ville,
je ne sais pas ça du tout.
Cupertino, c'est le siège social.
C'est
vraiment... C'est une vallée le long de la baie, au sud-est de
San Francisco. Mais c'est pas ça.
C'est vraiment une vallée.
C'est peut-être une histoire de baie de...
Tout ça peut se faire penser, mais...
Ça va, toi, je sais pas. C'est toi qu'elle ne reçoit pas de message.
Non, mais non, je suis en mode avion. Plus j'allais chercher la baie de San Francisco pour voir si ça, cartographiquement, il y avait un truc comme ça. Mais...
Non.
Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on en fait découvrir un autre?
Est-ce
que
peut-être on n'a pas demandé si c'est un livre qui vous donne envie, Manger les riches? Les autres, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Quelqu'un a envie de l'emprunter?
Moi, je serais plus parti sur la vallée du silicium, quand même, je pense.
Bon, on peut s'arrêter là et garder les autres livres pour la suite.
Ouais.
C'est la fin de cette fréquence locale. Aujourd'hui, c'est la fin de ce 3e épisode de La Voix et la Plume, ce partenariat entre Radio Fil de l'Eau et le lycée Joseph Saverne. Les programmes continuent bien évidemment sur les ondes de Radio Fil de l'Eau, 106.6 à Lisjourdain, 100.9 à Fleurance et www.radiofildelot.fr. Une très bonne journée à toutes et à tous et de très belles fêtes de fin d'année.